Samedi 10 juin 2017, vous écoutez le studio Kalangou, il est 18h, votre journal en français, c'est maintenant. Voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Le ministre du Pétrole était ce matin devant la représentation nationale. Fouma Kayogado devait répondre à une question du député Mamana Salé sur les conséquences socio-économiques de l'industrie pétrolière sur les sites d'exploitation. 5 militants du parti Lumana qui étaient poursuivis pour avoir jeté le discrédit sur une décision de justice ont été relaxés hier par le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Ils avaient critiqué la validation par la Cour constitutionnelle du résultat final de l'élection présidentielle de 2016. Enfin, dans la partie magazine de cette édition, il sera question de l'identification de faux médicaments contre la méningite. À suivre l'interview du docteur Pana Asimawe, représentant de l'Organisation mondiale de santé OMS. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a relaxé hier les 5 militants du parti Lumana, dont le professeur Haruna Yakuba et Bana Ibrahim, qui étaient poursuivis avoir jeté le discrédit sur une décision de justice. La décision de justice en question concernait la validation par la Cour constitutionnelle des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2016. Les raisons de cette relaxe avec le professeur Haruna Yakuba.
Les choses étaient évidentes. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt vers minuit, 2h du matin, si vous vous rappelez, le 30, je crois. Et nous, on a été interpellés le matin, à 6h du matin. Donc, on n'a même pas eu le temps de prendre connaissance de ce qui a été fait, parce que rarement on est quand même éveillé à 2h du matin. Donc, le juge a compris et que ce n'était vraiment pas conseillé. Et même à la police, quand nous avons été interpellés le premier jour, ils nous disaient que c'était une détention préventive. C'est toujours un soulagement de n'avoir plus à faire la justice. Pour un rien, on se retrouve comme une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant plus de un an. Moi, pendant tout le temps que ce dossier traînait, si je devrais voyager à l'extérieur pour mes congrès, pour mes conférences, je devrais avertir mon avocat, etc., etc.
Vous venez d'entendre le professeur Haruna Yakuba, militant du parti Lumana. Le ministre du Pétrole était ce matin devant la représentation nationale. Fouma Kayogado devait répondre à une question du député Mahamane Salé sur les conséquences socio-économiques de l'industrie pétrolière sur les sites d'exploitation. En effet, il a été constaté que les déchets pétroliers ne sont pas bien enfouis. Avec un peu de vent, ces déchets réapparaissent et les animaux en particulier, les chameaux viennent les lécher, une situation qui aurait causé la mort de plus de 100 camélins dans la région d'exploitation. Le ministre annonce qu'une série de mesures est mise en application pour endiguer ce problème.
Maintenant, il n'y a plus de fosse où il y a de la boue et de l'eau. Maintenant, il y a un procédé de traitement chimique qui permet d'abord de neutraliser les eaux pour les rendre en tout cas pas potables mais non toxiques et elles sont rejetées directement dans la nature. Et les boues ont fait un grand ravin d'à peu près 4 mètres, 4 à 5 mètres pour les enfouir. La troisième mesure, c'est des mesures de surveillance régulière des endroits où se trouvent ces forages pour s'assurer que les boues n'effleurent plus, que le réseau ne fait pas ressortir donc les boues à la surface. Voilà en résumé les questions qui ont été traitées lors de cette question orale. Et ces mesures ont été appliquées à partir de mars 2017, attendant au moins un an pour voir si c'est positif.
Propos recueillis par la télévision Canal 3. Suite aux récentes évolutions diplomatiques dans la région du Golfe, le gouvernement du Niger décide du rappel en consultation de son ambassadeur au Qatar. C'est ce que l'on pouvait lire sur le compte Twitter du ministre des Affaires étrangères du Niger, Ibrahim Yakuba. Tweet, un message posté hier soir aux environs de 21h. Le Niger emboîte ainsi le pas à d'autres pays africains tels que le Sénégal, la Mauritanie ou le le Gabon qui ont également rappelé leur ambassadeur en marque de soutien à l'Arabie Saoudite dans sa querelle avec le Qatar. Je vous rappelle que Riyad a annoncé cette semaine la rupture de ses relations diplomatiques avec Doha, accusé de soutenir les terroristes. Peu avant l'annonce dans la soirée de la décision du Niger de rappeler son ambassadeur, nous avions interrogé en politique et ancien diplomate Issoufou Bachar sur la marge de manœuvre du Niger dans cette affaire. Je vous propose d'écouter son analyse.
Le Niger est très mal placé pour choisir un camp. Le président du Niger doit avoir le courage d'être observateur, de ne pas s'y mêler. Et peut-être de faire un communiqué, envoyer une mission pour demander qu'il y ait la paix, que les deux parties s'entendent. C'est à ce jeu que le Niger doit jouer. Mais pas prendre une partie, et particulièrement si le Niger doit être de l'autre côté, ce serait le côté de l'Arabie Saoudite, parce que c'est le pays le plus en vue, mais ce n'est pas celui qui a raison. Donc le Niger n'a pas intérêt à se démarquer de Qatar et à soutenir l'Arabie Saoudite. Mais quand je vois un pays comme le Tchad, le Sénégal et la Mauritanie, vraiment soutenir l'Arabie Saoudite en coupant les relations diplomatiques avec le Qatar, j'ai vraiment honte. Qui est derrière ce jeu? Pourquoi cette querelle aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Qui est à la base? Il faut vraiment se poser la question.
Issoufou Bachar au micro de Tarnan Foude Ahmed. Le fleuve Niger est-il menacé de disparition? C'est en tout cas l'analyse faite par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE qui a effectué ce matin une visite sous le premier pont au niveau de la partie du fleuve où l'eau s'est retirée. Objectif de cette opération, sensibiliser les populations aux actions qui mettent en danger le fleuve du Niger. Cette activité rentre dans le cadre des activités liées à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement commémorée le lundi 5 juin dernier sous le thème « Appréhender la nature pour mieux en profiter ». Moussa Amani Ousseni, chargé de communication de JVE.
Quand le fleuve était en période d'étiage, l'eau ne se retire pas complètement jusqu'à avoir un espace de passage. Mais aujourd'hui, parce que le fleuve est rempli du sable, aujourd'hui, on peut marcher sous le fleuve. Les différentes cuves du fleuve sont en train d'être remplies par le sable et la jacinthe d'eau. Pour ce qui est de l'ensablement, c'est principalement les dunes de sable qui sont aux alentours du fleuve et aussi les terrains qui sont en train d'être coupés de leur bois, de leurs arbres, parce que les arbres, ça contribue à renforcer donc les sols. L'ensemble de ces différents sols, quand ils sont arrachés, ce sable se trouve donc ici piégé au niveau du fleuve. De l'autre côté, vous avez la pollution. La pollution, elle peut être industrielle. Elle a aussi une origine de nos centres de santé. Vous avez aussi les caniveaux des marchés qui se déversent. Vous avez les ménages et ça a un effet très nocif au niveau des espèces aquatiques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espèces qui sont, et de poissons par exemple, qui sont disparues.
C'était à l'instant Moussa Amani Ousseni, chargé de communication de JVE. À Filingué, le collectif des associations pastorales du Niger CAPAN, en collaboration avec le comité foncier du département, ont organisé ce matin un forum. Objectif, informer et sensibiliser la population sur la problématique de l'accaparement des terres pastorales. Pourquoi le choix de Filingué? Réponse avec Tidjani Alou Boubacar, secrétaire permanent du CAPAN, au micro d'Abdoulaye Bagassa.
La mobilité des animaux, c'est des choses qui sont en train de vouloir disparaître avec justement cette forme d'accaparement des terres qui précisément à Filingué est beaucoup plus accentuée. Les terres sont vendues, c'est-à-dire les maires ont loti les espaces, les couloirs de passage n'existant plus, les aires de pâturage n'existant plus. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, les gens nantis qui ont beaucoup d'animaux clôturent plusieurs hectares, plusieurs milliers d'hectares qu'ils clôturent pour eux. Alors que tous ces espaces-là que je vous ai cités font partie du domaine public de l'État. C'est-à-dire qu'elles n'appartiennent à personne. Ça n'appartient qu'aux animaux, la mobilité. Donc c'est pour cette raison qu'on est en train, en tout cas dans tout le Niger d'ailleurs, essayer de discuter, sensibiliser les gens sur justement ce que c'est que l'accaparement des terres, le phénomène là, comment il est. Peut-être que ça peut permettre aux gens de comprendre que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien.
Propos recueillis par Abdoulaye Bagassa. Hier vendredi 9 juin, s'est achevée dans le village de Dolbel, département de Tera, une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action aux populations. La distribution de ces moustiquaires est faite par l'intermédiaire de Catholic Relief Service qui a bénéficié d'un appui financier de l'Union européenne. Ces moustiquaires constituent une mesure essentielle de prévention du paludisme. C'est pourquoi le responsable du CSI de Dolbel, Dr Mouni Amidou, donne les conseils suivants pour une meilleure utilisation. Il est au micro de notre correspondant à Dolbel, Abdourahmane Djibé.
La distribution de moustiquaires peut apporter beaucoup, dans ce sens que l'utilisation convenable, c'est-à-dire on doit faire en sorte que les moustiquaires soient bien attachés, mis sur les nattes ou bien sous le matelas pour que les moustiques ne puissent pas avoir de passage pour entrer. Passer leur nuit dans les moustiquaires tous les jours, pas uniquement la saison pluvieuse, tous les jours. Donc, ça va réduire considérablement les piqûres et ça va réduire considérablement les cas de paludisme. Les conseils, vraiment, il y en a beaucoup. Et la moustiquaire doit être entretenue. C'est des moustiquaires qu'on ne doit pas mettre sous le soleil. Dès qu'on trouve la moustiquaire, l'emballage est déjà levé au niveau de la distribution. On les accroche dans la maison une journée, deux jours. Après, tu peux l'attacher. Et même si c'est sale, si tu les laves, il ne faut pas les faire sécher dans le soleil. C'est sous l'ombre qu'il faut les faire sécher pour, en tout cas, conserver l'efficacité du produit.
Docteur Moumouni Amidou, responsable CSI de Dolbel. Mercredi 7 juin dernier, des individus armés ont profité de la tempête de poussière qui s'est abattue sur la ville de Niamey pour attaquer une des agences de transfert d'argent, Benifa Foi de Lazare Nord. Selon les témoins, les brigands n'ont trouvé que la caissière et le vigile dans le bureau aux environs de 12 heures. Ils ont un peu bousculé le vigile sous la menace de l'arme et sommé la caissière de leur donner l'argent de la caisse. Ils ont pu quitter les lieux à bord d'une moto avec environ 6 millions de francs CFA. 18 heures passées de 12 minutes, la partie magazine de ce journal. Dans un communiqué publié le 2 juin, l'OMS a lancé un signal d'alarme concernant la circulation d'un lot de faux vaccins contre la méningite imitant celui d'un laboratoire bien connu. Le ministre de la Santé publique, Dr Iliassou Idi Maina Sara, a indiqué avoir pris des dispositions face à cette alerte, notamment en plaçant des inspecteurs dans toutes les pharmacies pour procéder à des vérifications. Les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé comme le Niger disposent chacun de systèmes de veille qui contrôlent la circulation et la qualité des vaccins et médicaments qui y rentrent sur le territoire. Comment identifier les faux médicaments des vrais? Docteur Pana Asimawe, représentant de l'Organisation mondiale de santé au Niger, de la santé au Niger, répond au micro de Lauratou Soumana.
Lorsque vous prenez un médicament, en espèce, on parle du vaccin, il y a des informations sur le produit fabriqué par le laboratoire. Ces références-là sont sa marque de fabrication. Il y a plusieurs informations. Il y a la date, il y a le numéro de lot, il y a le contenu, le lieu de fabrication, etc. Alors, à partir du moment où les utilisateurs par lesquels les vaccins ou les médicaments passent, ils contrôlent, ils voient que, ah, attention, une information n'est pas juste, eh bien, l'alerte est donnée. Lorsque l'OMS a été aussi saisi, on a alerté le ministère qui, tout de suite, a fait un communiqué. Parce que c'est ça qui est le plus important. Il faut que la population soit informée qu'il y a tel produit dangereux ou falsifié ou faux qui est en circulation. Il faut protéger la population jusqu'à ce que maintenant on puisse faire les investigations qui sont en cours pour voir d'abord si c'est effectivement un produit. On va les tester pour voir ce qu'il contient, si c'est faux, s'il est vrai. Ensuite, quelle est l'étendue, quelle est la quantité. Ensuite, maintenant, jusqu'à d'où il vient, tout ça là. Pour le moment, je ne peux pas donner ces réponses-là, puisque les investigations qui sont menées par le ministère de la Santé sont en cours. Donc, ceux qui font venir les médicaments et les vaccins, à savoir les pharmaciens, la direction de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé, ils ont toute cette formation pour pouvoir contrôler l'authenticité ou la qualité du produit. Donc, ce dont on parle actuellement de faux vaccins, il ne s'agit pas d'un vaccin qui a été retrouvé dans le système que le ministère met en place dans cette structure pour vacciner les gens. Non, il s'agit d'un produit qui a été trouvé ailleurs que dans cette structure officielle du ministère de la Santé. Aujourd'hui, il s'agit du vaccin, mais il s'agit également des médicaments. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire que l'OMS appelle les gens à respecter, à pouvoir se protéger leur santé et à ne pas aller chercher la vaccination ou aller chercher les produits n'importe où.
Propos recueillis plutôt par Raïla Toussoumana, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.